France Info.
Bonsoir à tous et bonsoir Jean-François.
Bonsoir Bérangère.
Pouvoir demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes, les mots d'Emmanuel Macron sur la fin de vie dans Libération et La Croix ce matin laissent beaucoup de questions en suspens, inquiètent pas mal de soignants ainsi que l'Église et ne rassurent même pas complètement les partisans d'une aide active à mourir. L'expert des informés pratique des euthanasies depuis une quinzaine d'années en Belgique dans un cadre qu'il nous expliquera. C'est le docteur Yves Delocht, médecin généraliste donc à Bruxelles, auteur de « Docteur, rendez-moi ma liberté, euthanasie, un médecin belge témoigne ». C'est publié aux éditions Michel Lafond. Au menu également des informés, l'école, meilleure arme pour combattre le terrorisme. C'est ce que dit Gabriel Attal à Arras, dans le lycée du professeur Dominique Bernard, tué par un ancien élève radicalisé il y a 5 mois. Sauf que les profs se sentent un peu seuls dans ce combat. Et puis, le début du Ramadan sans trêve à Gaza, et avec une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes et les voix qui se multiplient pour appeler à la fermeté vis-à-vis du gouvernement israélien. On parle de tout ça avec nos informés ce soir. Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales et auteur du livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud. Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir et bienvenue à tous. Aider à mourir, on va en parler. Les mots n'ont pas été choisis au hasard dans le projet de loi qui a donc été révélé ce matin par le président de la République dans Libération et dans La Croix, Jean-François.
Oui, il faut bien expliquer de quoi il s'agit. C'est un projet de loi qui irait au-delà de la loi précédente, Leonetti-Claes, qui était une loi d'accompagnement avec sédation profonde. Là, le patient, s'il remplit certaines conditions, être majeur, capable de discernement, si sa demande est acceptée par un collectif de médecins, eh bien, il peut s'administrer la substance létale lui-même. Ça s'appelle, en langage clair, un suicide assisté. Ou s'il est dans l'incapacité de le faire, eh bien, il pourra le déléguer à un proche, un médecin, un infirmier. C'est une euthanasie. Le franchissement est là. Est-ce la porte ouverte vers d'autres transgressions? C'est ce que demandait, interrogé ce matin La Croix. Le débat ne fait que commencer. Puis il y a l'autre aspect aussi, puisque c'est la deuxième jambe du futur projet de loi. C'est la généralisation de l'offre des soins palliatifs pour accompagner et soulager les personnes qui souffrent en fin de vie. Problème. 21 départements sont dépourvus et puis l'hôpital en général au niveau national eh bien souffre d'une carence générale de moyens. Le président évoque un plan décennal, 1 milliard à mettre sur la table. L'inquiétude c'est les patients ne vont-ils pas être confrontés au final à la seule offre par défaut, celle de l'assistance au suicide.
Alors, sujet complexe, salué par un certain nombre de patients et les partisans d'une aide active à mourir. Mais même eux ne sont pas complètement rassurés. On va écouter Jean-Luc Romero, le président d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.
On passe de ce qu'appelait Jean Leonetti le laisser mourir au faire mourir. Donc évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Mais en même temps, quand on regarde les conditions qu'il pose, et notamment la cinquième condition, on a des inquiétudes à avoir, puisque c'est en fait une équipe collégiale de médecins qui va décider de vous accorder ou non ce droit. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux, il faudra demander à une autre équipe. Et si cette autre équipe n'est pas d'accord, il faudra aller en justice. Ça paraît totalement impossible. Aucun pays qui nous entoure n'a utilisé un système comme celui-là. Il ne peut pas fonctionner. Donc on voit qu'aujourd'hui, le Parlement a un rôle à jouer. Et moi, j'ai confiance dans cette Assemblée nationale qui est favorable à l'aide active à mourir.
Voilà. Alors les plus indignés sont les associations de soignants qui disent « Nous, on est là pour soigner, pas pour tuer ». On va en parler avec notre expert dans un petit instant. Du côté des églises, écoutons Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. C'était sur France Inter ce matin.
Il y a des choses qui sont assez étonnante et presque surprenante dans leur permissivité, que le geste létal puisse avoir lieu non seulement dans un cadre hospitalier, mais aussi chez soi et en EHPAD. Les EHPAD, c'est pour les personnes âgées et qui, par définition, ne sont pas à l'hôpital. On a l'impression que dans la Startup Nation, les personnes non productives n'ont plus le droit de cité.
Voilà pour une série de réactions et on va évidemment en débattre. Bonsoir Yves Delocht.
Bonsoir madame.
Merci beaucoup d'être en direct sur France Info. Vous êtes médecin généraliste à Bruxelles et vous pratiquez des euthanasies depuis une quinzaine d'années. Vous avez pris connaissance de ce que propose le président français pour cette aide active à mourir. Ça semble très différent, assez différent en tout cas du cadre légal belge, à commencer peut-être par le fait que en Belgique, c'est le médecin qui fait le geste. Là, Jean-François le disait, en France, la substance légale, létale, serait administrée par le patient lui-même. On a un peu de mal à comprendre pourquoi on n'appelle pas ça un suicide assisté, d'ailleurs.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Romero a dit. Donc, le fait que ce soit le patient qui avale le produit, c'est une euthanasie qui ne dit pas son nom, évidemment. Mais il y a d'autres choses qui font que ce qu'a dit votre président ne correspond pas du tout à ce que nous, les médecins belges, pratiquons. Dans ce qu'il a dit, nous laissons... Les Français laissent de côté tous ceux qui sont atteints de maladies graves, incurables, qui peuvent malheureusement durer des années. Donc il n'y a pas une échéance, comme dit M. Macron, un décès dans le mois ou dans les 6 mois à venir. Moi, j'ai des appels régulièrement de patients atteints de maladies neurodégénératives, maladies de Charcot et d'autres, qui sont dans un état grave, qui malheureusement ne va pas en s'améliorant, qui viennent nous voir, nous, les médecins belges, parce qu'ils n'ont aucune issue en France. Et ce que propose M. Macron pour ce genre de maladie ne rencontre malheureusement pas tous ces patients-là qui vont vivre pendant des années à moitié paralysés, essoufflés, ne sachant plus parler. Que faisons-nous de tous ces patients qui font parfois des centaines de kilomètres pour aller en Belgique ou en Suisse pour trouver une solution à leur malheur? Donc on laisse de côté toute une série de patients, c'est une des premières remarques que je voudrais faire. Évidemment, comme l'a dit M. Romero, un patient remplit les conditions de la loi belge, il n'y a plus après un collège des médecins qui va décider oui ou non, on l'accepte. Tout ça n'a aucune signification et nous révolte, nous, les médecins belges. On respecte la loi, on entre dans le cadre de la loi belge très stricte, avec des conditions très sévères. Ces conditions sont remplies, un deuxième médecin donnera son avis et on pratiquera l'euthanasie. Voilà, un suicide assisté où le patient avale un produit, c'est évidemment... une euthanasie qui ne dit pas son nom, c'est le patient qui assume lui-même tous les gestes, c'est un peu différent, mais les Français ne veulent pas utiliser le mot euthanasie, je n'ai pas encore compris pourquoi, il faudra qu'on me l'explique, ça a une toute autre signification que ce que l'on pense.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili, Bérangère Bond.
Avec ce soir, Patricia Lémonière, grand reporter Alexandra Schwarzbrod de Libération, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et le docteur Yves Delocht, médecin généraliste à Bruxelles et qui pratique ses euthanasies depuis de nombreuses années et qui nous en parle. Et on va faire un petit tour de table ici en plateau. Je me tourne vers vous, évidemment, Alexandra Schwarzbrod, parce que c'est dans Libération, notamment, et dans La Croix, mais dans Libération aussi, que le président a fait ses annonces, ce flou, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous l'avez perçu.
Oui, enfin, il faut d'abord voir, il y a quand même un progrès par rapport à ce qui existait avant. C'est un petit progrès et on sent bien, on voit bien avec toutes les réactions dont vous avez fait état, hein, qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire ceux qui trouvent que ce n'est pas assez, ceux qui trouvent que c'est trop. On voit bien que le chef de l'État est très, très, très embarrassé par cette question. Lors de son premier quinquennat, il n'avait pas voulu se prononcer sur le sujet. On voit bien que lui, qui est traversé par des sujets très philosophiques, c'est un sujet qui touche à la fois à l'intime, au politique, au religieux. Enfin, c'est traversé par plein de choses, de sentiments, d'émotions. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, plusieurs fois dans cette interview, il prononce le mot « humilité ». C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui est écrasé par l'enjeu que ce sujet représente, de vie, de mort, de souffrance, et que pour l'instant, il n'arrive pas à aller plus loin. Mais il faut quand même souligner que c'est un progrès par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent et peut-être une façon de préparer les esprits à ce qui va se produire dans les années à venir.
Patricia Lémonière.
Alors moi, je dirais qu'en tant que chef d'État, j'espère qu'un chef d'État sait dépasser ses propres difficultés à affronter l'existence et la mort, en tout cas en ce qui concerne les lois. En ce qui concerne, par contre, le débat, j'ai envie de dire, il y a deux choses qui me frappent. La première chose, c'est que la France a toujours, à l'inverse des autres pays, une difficulté dès qu'il s'agit de gérer, régler les questions sociétales. C'est chaque fois dans notre pays des débordements d'invectives dans tous les sens. Ben, je pense à tout ce qui était IVG, MPA, enfin, toutes les dernières lois sociétales ont toujours posé des problèmes. Et alors que des pays très catholiques, très attachés à la religion, comme l'Espagne et le Portugal, ont des évolutions beaucoup plus apaisées, la France ne peut pas. Et ma foi, j'ai envie de dire, c'est qu'une question de liberté, c'est donner la liberté de choisir. Si vous êtes profondément croyant et que votre religion vous l'interdit, eh bien, on va pas vous obliger à vous euthanasier c'est laisser la liberté aux autres et le manque de tolérance qui existe parfois dans notre société, me frappe par rapport aux autres pays.
Jean-Sébastien Ferjou, votre regard.
La tolérance devrait s'étendre jusqu'à entendre les arguments des autres, justement. Parce que non, ça n'est pas que, en tout cas pour moi, à mes yeux, qu'une question de liberté. Je n'ai pas l'impression que Mgr Rouget, qu'on a entendu tout à l'heure, était dans l'invective.
J'ai parlé de la liberté pour les deux camps, hein, pour les deux.
Question de liberté. Je comprends, bien sûr, si on le place au niveau de l'individu. Oui, au niveau de l'individu. On peut tous comprendre ou se poser la question. Et malheureusement, je n'en parle pas que d'un point de vue théorique. Je sais aussi ce que c'est dans la vraie vie. Donc oui, on peut comprendre ce que c'est que d'être confronté à quelqu'un qui est dans une situation extrêmement difficile ou une situation de souffrance. Maintenant, si on le prend dans l'autre sens, ça ouvre quand même énormément d'autres questions. Et c'est là où ça n'est pas qu'une question de liberté. Déjà, c'est une transgression symbolique. Souvenez-vous, Robert Badinter le disait, c'est hors de question. L'État n'a pas à être associé à une décision de donner la mort. Mais au-delà du débat philosophique, regardez la question qui se posait pendant le Covid. Qui on sauve ou qui on ne sauve pas? Est-ce que vous croyez qu'une fois qu'on serait allé plus loin, mais même nettement plus loin, comme c'est le cas, par exemple, au Canada, les raisonnements financiers n'interviendront pas? Est-ce qu'on vous dira pas, mais monsieur, quand même, ça va coûter très très cher, les trois mois qui vous restent à vivre,
France,
vous voudriez pas plutôt accepter?
Mais on peut avoir un débat,
et c'est ce que nous sommes en train d'avoir. Moi, ce que je constate, c'est que bien souvent, il y a une espèce de chantage émotionnel, justement, faisant en sorte de glisser la poussière sous le tapis, de ne pas vouloir voir justement les dérives que ça a pu occasionner dans un certain nombre de pays. Quand vous voyez au Canada, les mutuelles canadiennes, elles ont fait le calcul, combien ça leur fait économiser chaque année.
Parce que la question,
elle se pose malheureusement aussi comme ça, et pas uniquement, ce que je respecte infiniment, et je ne me permettrai jamais de juger ni quelqu'un qui prendrait une décision le concernant soi-même, ni un médecin qui voudrait aider, parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça c'est toujours fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la transgression juridique et ce qu'elle amène comme conséquence en cascade pour le reste de la société.
J'ai envie de vous entendre, Dr Yves Deloche, sur ce débat, sur l'opportunité de faire une loi sur quelque chose que pas mal de médecins disent depuis quelques heures, là, je l'ai entendu plusieurs fois, pratiquer. Mais faut-il faire une loi pour autant? C'est ça le débat.
Je pense qu'une loi est tout à fait nécessaire parce qu'une loi protège et le patient et le médecin. Donc, le patient sait que nous allons pratiquer une euthanasie si nous respectons scrupuleusement les conditions de la loi belge. Donc, il sera protégé et il saura aussi quel produit nous allons utiliser, comment nous allons la pratiquer. Donc, il y a une protection du patient, il y a une protection du médecin, parce que l'euthanasie, ça n'a rien à voir avec un meurtre, comme prétendent certaines fois les opposants français. Je ne tue jamais personne. C'est la maladie qui tue le patient. Moi, mon éthique de médecin, c'est d'apaiser les souffrances du patient. Quand j'ai en face de moi un patient qui est en très grande souffrance, oserais-je lui dire un Français, revenez l'année prochaine parce que vous n'entrez pas dans les conditions et que vous ne souffrez pas encore assez. Je suis incapable, de par mon éthique de médecin, de faire ce genre de geste. Je respecte évidemment la loi. Si la loi est remplie, avec un autre médecin, nous pratiquons l'euthanasie. Et l'émotion forte, je suis entièrement d'accord chaque fois que je pratique une euthanasie, mais j'ai un sentiment, comme je dis souvent et même dans mon livre, de libération. Et les patients qui vont nous quitter, me disent d'abord, vous auriez dû faire beaucoup plus tôt, et merci. Ils n'arrêtent pas de me dire merci, ainsi que les familles. C'est dommage que nous n'ayons pas, j'humorise un peu, les témoignages des patients qui nous ont quittés. C'est très important. C'est comme les témoignages dont on a beaucoup parlé des femmes pour l'IVG. Ici, malheureusement, les patients ne sont plus là. Mais j'ai les témoignages des familles et on pourrait en parler pendant des heures. Il est dommage qu'on raconte tellement de choses
qui vous disent quoi ?
Qui ne sont pas vraies.
Ça va dans les deux sens, les témoignages des familles. Enfin, le chanteur Dave, vous connaissez, qui est néerlandais, sa mère a été euthanasiée aux Pays-Bas. Il le dit, avec le recul, il se rend compte, ou il se demande, si sa mère ne l'a pas fait parce qu'elle savait que ses enfants habitaient loin d'elle et qu'elle était devenue une forme de, en quelque sorte, d'inconfort, pour ne pas dire de nuisance dans leur vie. Donc je pense que les témoignages vont dans les deux sens. Encore une fois, je comprends parfaitement l'enjeu émotionnel que ça peut représenter, les situations tragiques. Mais ça va dans les deux sens. Et surtout, pendant tout le temps que nous consacrons à ça, c'est aussi du temps, même si dans l'interview, Emmanuel Macron dit qu'il pense investir 1 milliard d'euros dans les soins palliatifs, que nous ne passons pas à nous poser la question de qu'est-ce qu'une société. Parce que quand on voit dans certains pays où c'est jusqu'à la dépression, vous pouvez justement vous faire euthanasier parce que vous êtes dépressif ou parce que vous êtes dans une situation de détresse économique. Enfin, qu'est-ce qu'une société qui se résout finalement à dire « bon, on n'arrive pas à t'aider, t'es isolé, t'es tout seul, t'es dans une souffrance incontestable hein, » parce qu'il peut y avoir des souffrances psychologiques ou psychiques qui sont atroces, il n'y a pas que la souffrance physique. Mais qu'est-ce qu'une société qui dit « bon, on s'en lave les mains et puis finalement, c'est plus facile de faire ça ». Parce que moi, ce que je retiens quand même, c'est le cynisme aussi. Souvenez-vous, aux États-Unis, l'épidémie d'opioïdes, vous savez, qui fait plus de morts chaque année que les accidents de la route, plus les suicides, plus les morts par arme à feu. Aux États-Unis, chaque année, par overdose d'opioïdes. Les grandes entreprises pharmaceutiques, vous savez ce qu'elles ont fait dans leur calcul cynique, dans leur action commerciale aux États-Unis? Elles ont ciblé tous les comtés où il n'y avait pas d'aide aux soins palliatifs. Donc la réalité, c'est aussi celle-là, c'est que la demande de mourir, elle vient aussi beaucoup d'une société qui a renoncé à être humaine ou qui a renoncé à investir suffisamment pour accompagner les personnes en fin de vie.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili, Bérangère Bonte.
Alexandra Schwarzbrod est là pour Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico et le docteur Yves Delocht, médecin généraliste à Bruxelles. Jean-Sébastien Ferjou évoquait, on va dire, les craintes d'une banalisation qui est exprimée hein, par un certain nombre de voix de l'euthanasie. Vous vouliez réagir, Patricia, puis on écoutera Philippe Juvin, le médecin, dans un instant sur ce thème.
Oui, on faisait vous faisiez allusion à une société mercantile, en fait, hein, qui sacrifie ceux qui sont devenus, finalement, dont on ne peut plus s'occuper. Moi, ce que je dis, c'est que quelle est notre société aujourd'hui qui laisse 50% des gens hors soins palliatifs? Quelle est cette société aujourd'hui qui laisse les gens qui ont les moyens financiers d'aller se faire euthanasier en Belgique, en Suisse? Quelle est cette société, je veux dire, aussi? Il faut aussi que l'on apaise les débats, que l'on regarde les choses un peu d'une façon posée, etc. Et qu'effectivement, on avance sur ces questions-là. Mais notre société ne fait rien au niveau des soins palliatifs, pratiquement très peu de choses. Et j'en parle aussi en connaissance de cause. Et si vous voulez, on se lave les mains avec la Suisse et la Belgique et les autres pays.
Alors, c'est une autre des questions, ça. Est-ce que docteur Yves Delocht, l'euthanasie est-elle l'échec des soins palliatifs?
C'est une excellente question. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer les soins palliatifs et l'euthanasie. En Belgique, en même temps, si vous me permettez ce jeu de mots, les soins palliatifs ont été promulgués en même temps que la loi sur l'euthanasie. Donc les soins palliatifs sont très développés. Donc on doit arrêter...
Plus qu'en France, de ce que vous en savez?
Mais évidemment, je travaille très régulièrement à Bruxelles avec des associations de soins palliatifs et ils nous aident, nous travaillons de concert et de bonne entente et régulièrement même, ils nous aident à pratiquer une euthanasie chez un patient qui est au bout du bout et pour qui, malheureusement, la seule solution est il n'y a plus aucun traitement. Donc la seule solution est d'abréger ses souffrances par une euthanasie. Arrêtons les soins palliatifs et les droits du patient, troisième partie de la loi de 2002, sont très très développés en Belgique. Donc il faut arrêter cette opposition, en tout cas en Belgique, des soins palliatifs et de l'euthanasie. Ce sont deux choses complètement différente.
En France, un certain nombre de voix, je parlais de Philippe Jubin, Jean-François qui était votre invité tout à l'heure à 18h20, député LR des Hauts-de-Seine, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, qui craint des dérives, expliquant que c'est un premier texte qui évoluera peut-être un peu comme en Belgique. Écoutez, puis je voudrais que vous réagissiez.
Là où je suis inquiet, c'est que dans les pays où ça a été légalisé, on a fixé évidemment au début, quand la loi a été votée dans ces pays, des limites en disant ça s'adressera à telle catégorie de patients et pas à telle autre. Et dans tous les pays où ça a été légalisé, avec le temps, on a vu en fait une déviance avec des catégories auxquelles c'était interdit au début, c'est devenu autorisé. Par exemple, en Belgique, depuis 2014, l'euthanasie est autorisée aux mineurs, aux enfants.
Docteur Yves Deloche, est-ce qu'on sait combien d'enfants ont été euthanasiés depuis 2014?
Alors, je suis évidemment tout à fait contre ce qui vient d'être dit. Depuis 2014, dans des conditions très particulières, il y a eu 4 enfants, donc en 10 ans, qui ont été euthanasiés. Les conditions sont très, très sévères. On n'a pas le temps, il faut l'autorisation des deux parents, plusieurs médecins qui doivent donner leur avis. Dérive, je pense qu'on pourrait commencer à en parler par la France. Savez-vous combien d'euthanasies clandestines qui se pratiquent tous les jours en France?
Combien, à votre connaissance?
Entre 3 et 4 000.
Tous les jours?
Par an, évidemment.
Par an.
Entre 3 et 4 000, et je connais, vous les connaissez peut-être, les médecins qui la pratiquent, et donc ils le reconnaissent. Alors, on doit sortir de la clandestinité. Comme je l'ai dit, ça protège les médecins et les patients. On est contrôlé, on doit dire ce qu'on fait, ce qu'on a fait, et envoyer des rapports, même si tout ça est critiqué.
Alexandra Schwarzbrod.
Vous voyez, ça fait 30 minutes qu'on débat de ce sujet et il y a tous les avis possibles la plupart d'ailleurs, qui sont très entendables. Et donc, ça explique.
Chaque histoire de fin de vie est un cas particulier.
Absolument. Non, mais je sais. Mais c'est important. Je pense que c'est important de donner un cadre. Vous disiez ce qu'il faut légaliser. Je pense que le cadre est extrêmement important. Il faut légaliser, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires. Donc ça, c'est important. Mais en même temps, ça peut tellement diviser la société. On voit bien que personne n'est... Il n'y a pas d'unanimité. Il y a une majorité de Français qui veulent, en effet, que la législation progresse. Hein, et donc là, c'est un premier pas qui a été fait. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Je pense que les soins la question des soins palliatifs et de l'aide à mourir, c'est deux choses. Il faut impérativement mettre le paquet sur les soins palliatifs. Ça, c'est... Mais plus qu'évident. C'est honteux, en effet, qu'il n'y ait pas de soins palliatifs pour l'ensemble des personnes qui le réclament ou qui en ont besoin. Mais on voit bien que l'aide à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté, c'est un sujet qu'il est très, très, très difficile de trancher et de faire progresser d'un coup. Je pense qu'il faut y aller progressivement. Et là, c'est un premier palier qui peut permettre, j'espère, d'autres paliers par la suite.
Juste de remarques rapides, c'est ce que disait Philippe Juvin dans l'interview tout à l'heure, c'est vrai que cette histoire de soins palliatifs est fondamentale. Notre invité rappelait qu'en Belgique, les mesures sur l'euthanasie allaient de pair avec un développement massif de soins palliatifs, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, cette offre-là n'y est pas. Elle remet en cause la réforme à venir. Et deuxième chose, je rappelle aussi, pour mémoire, que les affaires les plus spectaculaires, celles de personnes qui ont été maintenues en vie pendant des mois et des années avec des polémiques qui allaient avec, cela concernait des personnes qui n'étaient plus capables de discernement. C'est-à-dire que la nouvelle loi qui arrive ne réglera pas ce type de situation.
Juste Patricia. J'aurais
juste voulu poser une question, mais ça va être trop tard.
Ça va être trop tard, hélas. C'était sur les dérives. Débat à l'Assemblée. Donc le texte part au Conseil d'État dans 8-10 jours, Conseil des ministres en avril, et débat à l'Assemblée le 27 mai. Juste avant les européennes, absolument. Vous faites bien de le souligner. Merci beaucoup, docteur Yves Delocht. Je rappelle le titre de votre livre, Docteur, rendez-moi ma liberté, euthanasie, un médecin belge témoigne. C'est publié aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir été en direct dans Les Informés.